Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme chargé de cette deuxième édition en version audio, le retour en version audio de Silence on Joue avec nos amis des croissants. Au programme, donc, on va parler de quoi ? On va parler de PC Building Simulator. Est-ce que vous y croyez, ça ? On va passer
oui.
De PC Building Simulator. On va parler de Super Weekend Mode de Fortnite. Oui, il faut en parler, de Fortnite Battle Royale.
Oui.
On a évité le sujet autant qu'on a pu. On s'est dit, non, mais ça va retomber. Bon, on va en parler alors. Fortnite Battle Royale. On enchaînera avec le C64 Mini. On terminera par le très étonnant, qui date un petit peu, mais il faut en parler aussi, Doki Doki Literature Club. C'est le programme de cette semaine dans Silence on Joue. Et je commence par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour Corentin.
Salut Erwan.
Merci de nous accueillir.
Mais de rien, c'est un plaisir.
On commence d'ailleurs avec toi Corentin, avec une petite news.
Ouais, une petite news qui est un peu embêtante, notamment quand on est journaliste jeux vidéo, puisque c'était quand même assez pratique. C'est le site Steam Spy. Alors pour ceux qui ne savent pas, le site Steam Spy était un site qui permet tout simplement de voir en fait le nombre de gens qui possédaient un jeu sur Steam. C'était des chiffres assez étonnants à avoir, parce que d'habitude les chiffres de vente des jeux sont plutôt confidentiels, c'est clair. En tout cas, c'est des chiffres jalousement gardés par les éditeurs quand il s'agit de Nintendo, Sony ou Microsoft. En général, on a des classements, mais on n'a pas les chiffres. Et Steam Spy permettait, notamment pour les jeux qui sortaient uniquement sur Steam, d'avoir finalement l'intégralité des ventes.
C'était précieux.
Et c'était assez précis aussi. Il y avait une fourchette. De toute façon, ils donnaient à la fois un chiffre et une fourchette, parce que plus un jeu était vendu, plus c'était précis. Et inversement, il y avait des limites aussi, puisque si un jeu passait en gratuit le temps d'un week-end, beaucoup plus de gens le possédaient, donc les chiffres étaient faussés, mais ils l'indiquaient aussi sur son site. De toute façon, il avait une démarche assez intellectuellement honnête sur son site. C'est pas du tout VG Charts, par exemple, qui a des méthodes un peu fumeuses. Là, c'était quelque chose d'assez rigoureux malgré tout. Et les développeurs disaient, c'est quand même assez précis. je me sens un peu à poil quand même.
Ça ouvrait une fenêtre assez inattendue de transparence à laquelle on n'était pas habitué du tout.
Et qu'on va oublier.
Jusqu'à nouvel ordre, une mise à jour de Steam va rendre en fait, alors il y a deux choses, il y a les comptes privés, c'est-à-dire que par défaut les comptes seront privés, c'est-à-dire que si on clique sur le profil d'une personne, on verra plus grand chose, on verra peut-être le pseudo, mais c'est à peu près tout. On verra pas notamment, et il y a d'autres paramètres comme la liste des jeux possédés, et cette liste-là va également possiblement être en privé par défaut.
C'est-à-dire que plus personne ne pourra voir mon nombre d'heures de Slay the Spire en fait.
C'est ça, donc
finalement
donc voilà,
tu vas préserver ta vie privée, c'est vrai que dans le contexte aujourd'hui
T'as dit virginité est préservée, Erwan, mais on ne pourra plus savoir combien de personnes possèdent tel ou tel jeu.
Comme tu dis, c'était surtout utile pour les gens comme nous qui travaillons dans le milieu et que ça pouvait vraiment être une source d'intérêt.
Comme disait, je crois que ça s'appelle M. Galionkin, il disait que c'était utile à, donc évidemment, aux journalistes qui pouvaient commenter les chiffres et tout ça. C'était aussi utile aux développeurs indépendants.
Aller jauger.
Parce que les gros bonnets du jeu vidéo connaissent les chiffres, ils les ont par d'autres. par d'autres. Pardon, on rigole parce qu'ils me regardent par-dessus
oui,
la perche.
Ce micro, donc voilà, on raconte des lunettes, donc bon, ouais, c'est un jeu de.
qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc les gros bonnets connaissent, il y a des agences qui leur donnent, GFK, tout ça, qui leur donnent les chiffres de vente, notamment en retail, et puis les en démat, ils les connaissent. Mais voilà, pour les petits indés, parfois, ça peut être intéressant de dire, tiens, ce style-là, par exemple, pas, le Battle Royale, est-ce que ça se vend encore? Est-ce que c'est encore à la mode? Quelle est la dynamique? Et ça permet de faire un petit peu une analyse de marché, d'essayer de découvrir...
À la volée, comme ça, oui, à la volée, de savoir très simplement.
Est-ce que je vais droit dans le mur avec mon jeu? Est-ce que je dois m'attendre à des ventes? Est-ce que je dois m'attendre à un jeu, personnel et qui va pas se vendre? Donc c'était aussi intéressant pour le marché de jeux vidéo. C'est dommage, c'est peut-être pas irrémédiable, on verra, en tout cas...
C'est Steam, c'est une boîte privée, c'est une boîte qui fait ce qu'elle veut. Et
comme
puis,
toute plateforme qui dépend d'une autre plateforme.
Voilà.
Il y a la même chose sur Twitter en ce moment aussi. Twitter qui va fermer ses API. Et il y a beaucoup d'applis tierces
qui vont sauter du coup.
Qui vont
pas avoir du mal à.
Ah non, mais elles vont sauter. C'est-à-dire qu'ils vont fermer les API externes.
Je crois qu'ils vont fermer genre la mise à jour automatique des API.
Voilà, c'est ça.
Ce qui fait qu'ils
pourront plus avoir de notifications.
C'est
embêtant.
Ils vont laisser ouvert l'API, mais il y aura plus les notifs. Donc c'est un peu ça va peut-être ramener du monde vers les applis officielles.
TweetDeck et Twitter.
D'accord.
Patrick.
Oui, alors pas mal de news ce matin. Je vais commencer par une info qui est tombée, je crois, tout récemment. On a appris par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, donc le STJV, que la grève chez Eugène System, le studio français, venait de se terminer. Alors pas forcément bien pour les travailleurs.
Alors ceux qui n'ont pas suivi, ça dure depuis un bail.
Alors ça fait six semaines, je crois qu'il y avait, eu six semaines de grève, si je dis pas de bêtises.
Plus
non, je crois que c'était six semaines.
Six semaines, ça me paraît cohérent.
Je vais reprendre le communiqué, parce que donc, le STJV a publié un communiqué tout récemment. Nous avons cessé la grève, donc il reprend donc, un communiqué donc, de Gênes. Nous avons cessé la grève le mardi 3 avril, après plus d'un mois et demi pour conserver nos ressources en vue du futur. Et donc, il passe au prud'homme. Voilà, donc il y avait 24 salariés sur les 44 du studio. Donc, c'était quand même une grève importante. Et donc voilà, ça va se poursuivre au prud'homme. Ça venait donc d'une demande des salariés d'une prise en compte d'une demande d'amélioration des conditions de travail de remise à niveau des conditions de travail pour les différents employés. Touche mon micro.
Parle bien dans le micro. Ça.
Ah pardon, je me relève un petit peu. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça finit au prud'homme. Donc c'est au bout d'un mois et demi. Et donc
d'après la situation telle que racontée par les salariés, c'était aussi simplement une mise en conformité avec la loi.
C'est ça. Voilà, c'était plus une conformité.
C'était pas des revendications de plus 20% de salaire pour tout le monde et tout ça. C'était juste se conformer à la loi. Et c'était un. En tout cas, les communications des salariés étaient proprement hallucinantes. Je vous conseille d'aller lire ça sur le site du syndicat. C'était repris par Mediapart et Canard PC dans leur grande enquête annuelle sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Et franchement, la situation est assez ubuesque.
C'est clair. Donc voilà, c'était une des news. Quelque chose de plus léger quand même, parce qu'on va pas... des news du côté rétro, on a pas mal de rétro en ce moment. C'est boosté par le carton de la Switch, évidemment, tout logiquement. Le carton phénoménal de la Switch qui booste tout.
Les vieux jeux indés se trouvent une nouvelle vie.
Et dont les
vous rendez compte qu'à partir du 27 avril, on pourra plus dire le carton de la Switch?
Et non, parce que ça sera
à cause de Nintendo là-bas.
Bah oui, c'est ça.
Alors on ne parlera plus peut-être que de ça. Et donc peut-être le carton du carton. Et je vous renvoie un papier que j'ai fait sur
Twitter. Mais oui, formidable.
Quelques jours, je vais pas faire d'autopromo.
Hashtag autopromo, il faut aller voir. En tout cas, si vous êtes abonné premium à Gamekult, Patrick ici présent a fait un très très bon papier sur le carton dans les jeux vidéo. Voilà.
Oui, parce que c'est une longue histoire en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Nintendo Labo en ce moment, mais je me suis amusé à remonter sur justement cette hybridation entre jeux vidéo et et comme assemblage de carton et de papier, et ça remonte à très très loin.
D'accord.
Je vais pas vous faire l'article ici,
avec la présence dans l'article de Étienne Mineur qu'on avait reçu dans Silence en Joue il y a très très longtemps.
J'avais écouté l'émission avant de l'interviewer et je me suis rendu compte que ça fait 4-5 ans. Ouais, ça va très très vite.
C'est
passionnant parce que justement il travaille beaucoup sur cette hybridation, et puis même dans les notices des jeux des années 80, j'ai retrouvé des...
Moi je la sens bien la limite d'une heure de l'émission.
Je reviens donc. La Switch cartonne, donc on a un nombre colossal de rééditions de jeux. Là, j'ai eu un tilt sur une annonce de compilation SNK qui arrive pour les 40 ans de SNK Corp, avec une bonne douzaine de titres, 13 titres je crois annoncés. Alors là, ça va être du bonheur, parce qu'on a les 3 Ikari Warriors, Guerrier Wars, on a du Vanguard, plein d'autres titres comme ça, des vrais titres marquants de SNK. Ça va être vraiment, vraiment très sympa. Ça a été confirmé, je crois que c'est Core Media, si je dis pas de bêtises, qui va le commercialiser donc en cartouche, et ça c'est bien, on a des versions boîte en France. Je crois que c'était confirmé en version boîte, si je dis pas de bêtises. Donc ça arrive...
Core Media, tu veux dire THQ maintenant.
Ouais.
Le monde change.
Et alors donc voilà, donc il y a cette compil SNK très très bien, et puis il y a eu plein d'autres choses. Hein. Ça s'inscrit dans une vague d'annonces, de relances de titres mythiques. On a Flashback qui revient la fin juin.
Encore sur Switch. Il n'a pas été réédité un milliard de fois.
Et si, mais il revient encore sur Switch en version boîte avec une édition collector avec une boîte en métal, des choses comme ça.
Entre Another World et lui, il faut voir lequel a été le plus réédité. Hein,
c'est là que c'est un peu la compète. Alors on a aussi Chaque Fou. Alors Chaque Fou, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un jeu de baston avec Shaquille O'Neal.
Bien sûr,
mythique.
Alors qui n'était pas très bon.
Autant
Flashback, j'ai un grand respect pour Flashback, qui a été vraiment une date dans l'histoire du jeu d'aventure action. Chaque Fou,
c'est un
vrai nanar.
Une ultra nanar.
Ils vont refaire un là-dessus.
Oui, mais c'est pour ça, il réédite. En fait, c'est une nouvelle version, c'est pas une réédition, c'est un remake de Chaque Fou qui devient une espèce de beat'em all. Bon, là, j'ai plus de réserves, on jugera sur pièce, mais c'est un peu bizarre. Et puis bon, Chaque Fou, moi je l'avais fait sur Mega Drive, c'était vraiment pas bon. Très franchement, c'était le gameplay était super flou.
C'était vraiment mauvais.
C'était pas les voilà, au niveau cuissage, je préfère me rappeler de Flashback. Il y a donc Chaque Fou, par contre Toki qui vient d'être annoncé aussi sur une version Switch avec Philippe Dessoli qui avait bossé sur la version Amiga. Moi Toki, j'adore Toki, mais je l'avais fait sur Amiga. J'ai une version sur Mega Drive japonaise qui est excellente aussi. Donc ma Toki, ça c'est voilà. En tout cas, c'est des jeux que j'attends beaucoup, et je crois que c'est la première fois que je précommande autant de jeux Microids de ma vie, voilà, qui fait pas mal de ces titres de Flashback, Toki. Donc on va suivre ça de près, mais en tout cas, on voit que la Switch, elle motive beaucoup de...
Je sens qu'on en reparlera. Je ne sais pas pourquoi, une intuition.
En bien, en mal, on jugera aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la nostalgie, mais aussi, on va aussi juger sur pièce ces rééditions ou ces nouvelles versions. Voilà.
Une dernière news, avant de passer au com des coms de la semaine dernière, c'est évidemment le départ de Cédric Lagarrigue de Focus Home Interactive. Départ surprise, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très peu de temps, d'ailleurs, c'était il y a un an, je crois, on avait reçu Cédric Lagarrigue dans Silence en Joue. C'était une émission assez mémorable où on avait pu se rendre compte du franc-parler du monsieur et de la manière dont il avait de parler de ses de la stratégie de Focus, de ce qu'on appelle les jeux de niche. Qu'est-ce qu'un jeu de niche, qu'est-ce que n'est pas un jeu de niche, et voilà. Et donc là, un peu abruptement, on a appris son départ, sa démission de Focus, et il est remplacé par un Allemand, je crois, qui est assez reconnu dans le milieu par ailleurs. Départ surprise. On imagine en tout cas que ce n'est pas forcément ce qu'on appelle un départ volontaire, que derrière il y a peut-être des choses, c'est la vie d'une entreprise
rapports de force à l'intérieur de l'entreprise.
Exactement, l'histoire de rapports de force. On n'a pas les détails, bien sûr, dans ce cas-là, c'est un peu compliqué d'avoir les détails. On les aura peut-être un jour, quand il sera plus
tenu. Quand il reviendra dans Silence on joue.
Quand il ne sera plus tenu par sa clause de confidentialité ou un truc du genre.
C'est une surprise.
Mais parce que c'était quand même...
C'est une figure, Cédric. C'est une figure du jeu vidéo en France. Et puis, c'est une de ces personnes qui incarne une boîte. Enfin, c'est vrai que Cédric, on ressentait quand on parlait avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui avait, en plus, qui n'avait pas sa langue dans la poche en général. On avait vraiment un discours, et on l'avait vu encore à Silence en Joue lorsqu'il était venu nous voir. C'est quelqu'un qui parlait franchement des choses. Et c'est vrai qu'il il incarnait Focus. Ça, il faut reconnaître qu'il avait ce côté défricheur. Je pense qu'il avait le nez aussi pour nous sortir les Trackmania, les Runaway à l'époque. Il avait vraiment cette capacité, je pense, à sentir les choses, et puis aussi à accompagner les jeux après dans le développement des studios.
Je pense que ça ne pouvait être que sous sa direction qu'on a pu avoir l'émergence de Farming Simulator en France, de ce jeu de l'année dernière de conduite dans la boue, là, le mode quelque chose qui a été un vrai succès, je crois, plus de 500 000 ventes, enfin c'était des choses, des ovnis comme ça, une sorte d'intuition.
Cette boîte a vraiment progressé en 15-20 ans, qui était, voilà, bon, elle va continuer, mais bon, peut-être différemment, on va suivre tout ça de près, mais voilà.
Le com des coms de la semaine dernière. Alors évidemment, Patrick qui parle des rumeurs PlayStation 5 et ça a trusté le forum de Silence on Joue. Quelques avis. On a eu des avis contraires sur Florence qui n'a pas été aussi bien apprécié.
J'ai écouté le morceau de podcast d'ailleurs.
De Red. La Pléiade. Voilà, bon après, c'est les avis. C'est des avis normaux. Des désaccords tout à fait normaux.
Je pense que là,
normaux.
Pour le coup, c'est vraiment les goûts et les couleurs, même si je suis pas d'accord. Enfin, le jeu quand même est bien ficelé, même si il a les défauts qu'on lui a donnés.
Quelques remarques sur Far Cry, sur Assassin's Creed et tout ça. Et puis donc on revient sur les rumeurs. Donc avec Seb22, je remercie Patrick pour m'avoir fait découvrir les rumeurs sur la PS5 que j'avais raté. Je suis pour les rumeurs en tant qu'auditeur.
Ah bon, on est d'accord.
Par contre, en lisant les articles reprenant la rumeur, je suis étonné de voir que les gens semblent agréablement surpris de la rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux PS4. Pourtant, comme la PS5 se dirige vers une simple évolution depuis puissance de calcul, mais reste exactement sur la même architecture, le contraire m'aurait étonné.
C'est une bonne remarque. Après, moi, je pense que effectivement, le but, ça va pas être d'aller vers une PS4 Pro. Hein. C'est pas le but, je pense. S'il y a une PS5, donc avec un nombre canonique derrière le mot PlayStation, je pense que l'idée, quand même, c'est d'évoluer.
Oui, mais
maintenant, je pense que l'intégration de la rétrocompatibilité, comme on l'avait eu sur la PS3, toute première version, qui pouvait lire en soft les jeux PS2, alors que c'était pas une évidence. C'est important pour garder sa Logitech, surtout qu'on va de plus en plus vers du démat. On a tous une Logitech importante, et c'est vrai que si on peut garder nos jeux...
Tu dis Logitech ?
C'est
Ludothèque. Logiciel, d'accord, je comprends ce que tu dis. Ça marche.
On a arrêté en 95 peut-être depuis.
Je suis content.
Logitech, c'est intéressant comme nom.
C'était un petit peu suranné. J'en conviens.
Il n'y a aucun problème.
Mes jeux.
Moi aussi, j'apprends des mots. On apprend tous des mots. Mais ça pour dire le côté architecture, je pense, je suis plutôt d'accord avec la personne qui a donné cet argumentaire là. C'est quand même un argument marketing de pouvoir dire vous pouvez jouer avec vos jeux PS4, surtout quand la PS4 a été un succès,
colossal,
s'ils sont sur la même architecture, qu'il n'y a pas un changement radical de la manière dont fonctionnent les jeux, ce serait bête de s'en priver de la part de Sony.
Je suis pour.
Il continue quand même, mais surtout cela me fait poser une question sur le cycle des consoles. Si ce ne sont que des évolutions à l'image des PC, est-il nécessaire de spécifier des numéros? En quoi, dans ce cas, une PS5 se distingue d'une PS4? Les options de performance dans les jeux vont-elles continuer à proposer des modes différents, comme dans Rise of the Tomb Raider, où le jeu détectera-t-il la machine pour ajuster ses réglages en fonction? J'ai peur que les inconvénients du PC ne viennent de plus en plus polluer. Merci de bien voir qu'il y a des guillemets, dit-il. Il y a des guillemets sur polluer.
On touche à des sujets sensibles, attention.
Le monde des consoles. C'est une bonne question. Il y a eu des réactions avec notamment Jérémy Israël. Mon sentiment, c'est que ça va continuer comme maintenant aussi longtemps que possible. Les nouvelles machines ne seront plus des tentatives de révolutionner quoi que ce soit en termes d'architecture. Les conséquences ont été autrefois trop lourdes et trop coûteuses. Et dans quelques années, le cloud gaming viendra mettre tout le monde d'accord.
Alors,
grande question.
J'en connais un qui est pas d'accord avec ça.
Enfin.
On en débattait encore tout récemment.
Red, d'ailleurs, après avoir vu tourner la solution Shadow, absolument stable et fonctionnelle, bien qu'à mon avis trop petite pour résister aux géants, je suis toujours curieux d'entendre l'avis négatif.
Oh là 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 là.
Sur le sujet.
Je pense qu'on va en reparler.
On va poser les micros, on va laisser Erwan, parce que là, je pense qu'il va.
Il va vous répondre pendant 45 minutes.
Vous pouvez prendre un petit quart d'heure pour que je vous explique pourquoi le cloud gaming, c'est tout pourri.
Il faut pas énerver Erwan comme ça au début d'émission, les gars. Non.
Écoutez, on va revenir sur cette histoire de cloud gaming. Je pense qu'on va demander aux gens de Shadow, qui sont une boîte française, et on sait que ça fonctionne, on sait que la solution est assez performante, voire très performante. Donc on va en parler sur pièce, on va demander à tester la solution de Shadow et on en reparlera, sachant que je rappelle que mon opposition au cloud gaming n'est pas du tout une opposition de fonctionnalité, ça va un peu plus loin, mais on en reparlera
On en reparle parce que c'est un sujet
dans une autre
important.
Émission.
C'est juste un rageux.
pas du tout. Bref,
posez des questions sur le cloud gaming dans les commentaires, allez-y.
D'ailleurs, on va rester un peu dans le le même univers, hein, celui
le
des
Commodore
PC.
64,
non, pas du tout.
Pas encore,
non,
après.
Non, bah, ah, c'est après le Commodore 64.
Un petit peu, alors.
Là, on va rester dans celui des PC, des cartes graphiques. Hein, mais ouais. Là,
c'est l'anti-cloud gaming, d'ailleurs.
Voilà,
c'est l'anti-cloud.
Finalement, l'anti-cloud gaming, on construire des PC.
À l'ancienne.
Non, à l'ancienne, dans PC Building Simulator. Alors, bizarrement, je n'ai pas laissé un son très long.
La musique est insupportable.
Voilà.
Il faut écarter tout de suite le problème. Hein.
Non, évacuons le problème de la bande-son qui meuble. Ouais, parce que, on va dire que l'ambiance sonore d'un magasin de montage de PC.
J'ai pris un Doliprane au bout de 10 minutes. Vraiment, et après, j'ai coupé. J'en pouvais plus. Voilà. C'est un détail. Voilà, il faut vraiment écarter. Après, on ne revient pas là-dessus.
Voilà,
parce
donc
que c'est
un peu pour ça qu'il n'y a pas une bande-son un peu plus évolué pour présenter ce jeu. PC Building Simulator, sorti il y a quelques jours, quelques semaines sur, sur PC. Hein, voilà, parce qu'on va peut-être pas...
moi, j'attends la version console, c'est fascinant. C'est
sorti le 27 mars.
Le 27 mars. PC Building Simulator, comme son nom l'indique...
Il est en early access, d'ailleurs, pour le coup.
Pour le coup, comme son nom l'indique, PC Building Simulator est un simulateur de construction de PC. À toi, Corentin.
Bah oui, voilà, la musique, on l'enlève, t'as raison.
Ah ouais, non,
moi, j'ai streamé le jeu parce que c'était rigolo de streamer le jeu. Et ouais, j'ai viré la musique, j'ai mis une playlist et puis je me suis fait striker par Twitch. Donc merci, PC Building Simulator, déjà. Donc tu l'as dit, c'est un jeu de construction de PC. Et pour moi, qui suis qui joue pas sur PC depuis très longtemps et qui notamment n'a pas construit son propre PC, j'ai gentiment demandé à une marque bien connue de PC, enfin de construction de PC, de me le monter. J'avais un peu peur en me disant, oh là là, je connais les bases, tu vois, je sais qu'il y a une carte mère, qu'il y a un CPU, qu'il y a machin, mais j'en sais pas plus, quoi. Donc j'avais un peu peur quand même en lançant PC Building Simulator, même si j'avais déjà pu jouer à une version pré-alpha qui était sur itch.io à l'époque.
J'en avais entendu parler, ouais.
Ouais, ouais. Et alors là, c'était très très basique, il y avait très peu de composants, on pouvait pas faire grand chose, il y avait juste un mode libre qui est toujours présent d'ailleurs dans cette version de PC Building Simulator. Mais voilà, donc on se retrouve avec cette nouvelle version avec plus de matériel, hein, dont des marques par ailleurs. Il y a énormément de marques dans le jeu, donc il y a évidemment tout ce qui est Nvidia, AMD. Alors après, c'est des marques que je connais pas trop parce que je suis pas trop dans les bails de construction de PC, mais voilà.
Donc avec les vrais modèles de cartes, les vrais modèles, c'est aussi bon. Voilà, c'est intégré. Il y a eu des deals, des partenariats avec des fabricants
et
hardware
qui ont pas dû beaucoup se faire prier parce qu'ils s'attendaient à avoir. À comment ça on peut licencier nos marques pour un jeu vidéo? Je ne comprends pas.
Comme dans l'automobile,
c'est-à-dire que vous voulez indiquer que votre jeu il va tourner avec notre matériel. Non, vous voulez que notre matériel soit
virtuellement.
Réexpliquez-nous.
Tu sais, j'imagine.
Réexpliquez-nous depuis le début.
J'imagine les négos comme avec Ferrari qui veut pas qu'on abîme ses bagnoles. Et là, bon, attendez, moi mes cartes machin, je veux pas qu'on les abîme dans le jeu. Faut pas qu'elles soient niquées. J'imagine qu'il leur tue.
Mais là, oui. Donc du coup, c'est quand même agréable d'avoir des vrais GTX bien rouges, flamboyantes. Vrai modèle qui s'allume avec les petites diodes parce que maintenant quand même on peut le dire hein, le montage de PC c'est l'équivalent du tuning, on met tout ce qu'il faut pour que ça soit bien flashy, que ça clignote, que ça soit joli, que ça
projette. On n'est pas obligé
forcément
non plus.
Oui. Ah non, on n'est pas obligé.
Et dans le tuning non plus on n'est pas obligé hein. Je fais juste un parallèle moi.
Tu peux faire discret.
Enfin, au final quand tu mets la fin de ta du boîtier, on voit plus rien pour la plupart des boîtiers Donc c'est plutôt agréable et il y a aussi voilà, on va expliquer le principe. Donc on a un mode carrière qui est le mode le plus intéressant je pense du jeu, où on hérite d'une certaine manière d'un magasin de réparation d'ordinateurs de son oncle qui est mort.
Dans un état financier assez cata, vu qu'il y a $0 sur le compte.
Non, il y a -$15 il a payé l'essence. Le pauvre c'est sûrement pour aller à l'hôpital, donc je vais pas lui jeter la pierre à ce point.
C'est vrai que le début est pas d'un optimisme fou quand on se lance dans cette cave là.
Et en plus on reçoit des mails du style « Ouais, je sais que vous êtes incompétent, mais je vous envoie mon PC quand même, machin. » Bon, on renvoie le premier PC qui a juste des virus. C'est plutôt pas mal didactique. C'est plutôt efficace. Sachant qu'on commence vraiment avec du tout doux. Hein. On est là, on a l'ordinateur.
On commence par du soft, dans mon souvenir.
C'est du virus.
La première mission, pour vous expliquer, et après on va pas aller totalement dans le détail, la première mission, on va prendre un PC qui est dans le couloir.
À l'entrée,
dans le couloir, on va le poser. on va le poser en vue subjective, on va le poser sur l'établi, enfin sur la table de travail. On va le brancher parce qu'il faut brancher tous les câbles.
Tout ça, cette préhension physique de l'objet, elle est importante. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une pure simulation virtuelle. On a vraiment presque le toucher de l'appareil.
On va donc, comme on fait normalement, on va brancher les deux câbles USB de la souris et du clavier. On va brancher l'écran, on va brancher l'alimentation. On va brancher la clé USB qui va nous permettre d'installer l'antivirus. Mm-hmm. On va allumer l'ordinateur, on va double-cliquer sur les fenêtres, on va lancer l'antivirus, on va fermer, on va
redémarrer l'ordinateur.
Pour vérifier que tout va bien et puis on repose et on a gagné les 100 premiers dollars de notre existence.
Qui me permet de repasser dans le verre. Et au fur et à mesure, évidemment, les missions deviennent de plus en plus complexes.
On en a plusieurs en même temps. Il faut gérer les commandes de matériel. Voilà. Ça, c'est important aussi. Mmh. Il y a une gestion du calendrier.
Ouais.
Mmh. Il faut s'organiser. Quoi.
Et parfois, certains clients vont vous mettre une deadline. Donc, c'est important de voir. Il y en a un qui vous dit, j'ai besoin d'un nouveau CPU. C'est urgent. Vous avez 2 jours. Sauf que commander un CPU, c'est 1 jour minimum. Alors, on peut évidemment mettre 100 dollars pour que ça arrive dans l'heure aussi. Mmh. C'est possible. Mais voilà, l'idéal.
On peut aussi mutualiser les frais de port.
On se rend compte qu'on est dans la simulation en effet de remplacer tout le matériel dans un boîtier, notamment par exemple de ne pas oublier la pâte thermique quand on met le CPU.
Ne jamais oublier la pâte thermique,
c'est important.
Ce genre de choses, sinon votre CPU il crame. Mais il y a tout cet aspect matériel, puis il y a cet aspect économique qui est important. Bon, le mec me paye 200 balles pour changer sa carte graphique. Tu te méfies parce que, attends, une carte graphique ça peut coûter cher. Il te demande juste upgrade. Donc tu fais OK, amène ton ordi. Très bien, tu regardes l'ordi, tu l'ouvres. Ouais, enfin coco, t'as déjà une 980 là dans ton truc, donc
le
simple fait de payer la GTX va me coûter plus cher que ce que tu vas me donner. Donc désolé, je te renvoie ton ordi tel quel. Et voilà, donc il y a une vraie gestion économique de se dire, est-ce que cette mission vaut le coup financièrement parlant, sachant qu'il y a pas de notion de devis, ce qui est étonnant pour un magasin. Il y a pas de notion de devis. En fait, le devis se fait quand l'ordi arrive sur pièce. Il arrive, tu fais non, je ne peux pas le faire, tu me donnes pas assez d'argent, je te le rends. Mais voilà, donc si tu veux pas finir ruiné, il faut pas accepter non plus toutes les missions. Faut peser le pour et le contre. Faut aussi surveiller en effet, comme tu le disais, les frais de port, parce que t'es ricrac, je vais me faire 10 dollars sur celle-là. Bon, voilà.
Mais si je commande plusieurs objets pour réparer plusieurs machines,
je peux réduire les frais de port, voire même, tiens, celle-là, c'est pas une mission urgente, je peux attendre une semaine pour que ça arrive et ça me coûtera que 10 dollars. Donc voilà, il y a toute une gestion de l'argent qui est très intéressante. Il y a aussi, on doit payer l'électricité. On m'a appris un truc, je pense que ça va vous tuer. Si vous éteignez pas la lumière en passant le jour et si vous éteignez pas l'ordi en attendant votre établi, la facture d'électricité apparemment monte.
Ah, bien vu. Ah, j'ai pas
incroyable, j'ai jamais éteint la lumière. Trop bien.
Et la musique, par contre, je l'ai coupée. Ça joue pour si on coupe le transistor parce que.
Peut-être.
On achète moins de piles pour le transistor. Alors, du coup.
Mais c'est sympa qu'ils aient poussé le statut. Marrant. Et du coup, ce n'est pas que un délire de PCiste, c'est vraiment aussi un vrai jeu de boutique. On gère sa boutique.
Oui, puis c'est pour moi ce qui est fascinant. Alors, moi, pour mon histoire, quand j'ai lancé le jeu, j'y croyais pas. Enfin, moi, comme vous disiez, j'avais un peu l'image tuning PC. Ça, quand on arrive sur la page d'accueil, on a un PC un peu décoré. Ça, je me suis dit, bon, c'est un truc un peu kéké, tuning. Et en fait, mais pas du tout. Il est super prenant, ce jeu. Ouais. Il est génial. Et moi, ce qui est génial, c'est qu'il m'a comment dire, il tend en tout cas à me rabibocher que cette pratique de l'ouverture de PC, qui pour moi arrive dans ma vie dans des moments critiques. Quand j'ai une panne de PC, je déteste mettre le nez dedans. J'avoue que je suis pas un bidouilleur. Hein. Et quand j'ouvre un PC, en général, c'est la panique. C'est dans des moments difficiles où voilà, il y a plein de poussière, faut nettoyer, c'est l'enfer. Enfin, t'appelles les potes qui savent se débrouiller. Et là, je trouve que ce jeu, il permet un peu de voir ça différemment.
C'est
et
du plaisir, comme, un petit
il y a
peu.
Un vrai côté didactique. Et ce qui est vraiment fort, c'est que pour moi, il arrive à intégrer, comme tu disais, plusieurs composantes de gestion, d'énigmes. Pour moi, chaque PC qu'on ouvre est une énigme. Au début, c'est très simple. Mais après, il faut cumuler le software, le hardware, les chats.
Il y a une énigme, puis il y a des fois des ordis qui arrivent, genre, diagnostiquez-le. Et c'est intéressant.
Il faut se débrouiller.
Le PC arrive et il ne boote pas. Il y a juste un petit message. Et du coup, avec ça, ou des fois, il n'y a rien indiqué. Donc, s'il n'y a rien indiqué, a priori, ça vient soit de la carte mère, soit de l'alimentation. Et c'est toujours intéressant. Voilà, en effet, c'est des énigmes.
C'est marrant parce que pour moi, c'est déjà quelque chose du passé. On parlait du cloud tout à l'heure. Moi, il y a longtemps que j'achète plus de tours. Je suis sur du PC portable. Aujourd'hui, j'ai plus envie justement d'ouvrir les machines, machin. Et en jouant à ça, je me disais, c'est marrant cette mise en abîme. Je suis sur un PC, évidemment, donc je trouve ça fascinant. On bidouille des PC via un PC. Il y a déjà même dans la mise en image de l'OS d'un ordinateur. Ouais. C'est un truc que je trouve toujours fascinant.
C'est
on parle souvent
OS,
de ces OS, de ces jeux qui
Omega
simulent.
OS.
Omega OS.
Je trouve toujours ça fascinant et ça marche bien. Et puis voilà, il y a un côté presque testamentaire de tout ça, c'est-à-dire que le bidouillage d'ordinateur gaming, ça se fait encore, mais est-ce que ça sera encore dans 5 ou 10 ans ? Ça, je suis pas certain.
Oui, si,
j'espère peut-être, mais ça sera peut-être beaucoup moins répandu que ça a pu l'être.
Parce que tu penses c'est... gaming comme foudre de guerre, mais en vrai, il y a de la bidouille qui est beaucoup plus simple. On peut voir tout ce qui est Raspberry Pi. Non, mais tout ce qui est Raspberry Pi.
Oui, ça,
ces trucs-là,
ouais.
Les micro-ordinateurs, les mini-ordinateurs
du quotidien.
Et c'est
plus forcément sur des tours comme ça de gaming.
Évidemment, mais là on est sur de la tour gaming, mais après, c'est, pour mon sens, c'est toujours important de se rappeler qu'un ordinateur, ça reste un CPU, de la RAM et...
Et surtout, exact. Pour moi, ce qui est fort, c'est qu'il démystifie un truc qui, pour moi, a toujours été flippant, c'est l'ouverture du PC qui est pour
moi un moment flippant.
Et là, il démystifie complètement, il rend ça sympa et vraiment, on se prend complètement au jeu et il y a une vraie mécanique de gameplay et une courbe aussi de progression qui fait qu'on accroche vraiment, c'est-à-dire que c'est simple au début, puis on se retrouve vraiment vis-à-vis de problématiques, de cas de figure difficiles. Alors je parlais justement, tu notais tout à l'heure, j'ai vu que tu réagissais sur l'appréhension de l'appareil.
Ouais.
C'est vrai que c'est le fait d'aller le chercher à l'entrée, il y a une prise en main. C'est même presque frustrant, on dirait que ça serait génial, pas de la réalité virtuelle, je vais pas encore aller jusque là, mais il manque peut-être le reboulonnage, tous ces moments qui sont pas forcément très agréables.
Alors,
quand on est
on dévisse quand même. Hein,
c'est assez facilité quand même.
C'est
heureusement, parce que s'il fallait tourner la souris pour.
Et ce qui est très facilité, à mon sens, c'est pas plus mal que ça soit comme ça pour l'instant.
Mais ce serait bien qu'il y ait
un mode vraiment
hardcore.
Avec un moteur physique peut-être à la, vous savez, Frictional Games, tout ce qui est Amnesia et compagnie.
Non, s'il te plaît.
Moi j'aime bien ce genre de choses. Et c'est vrai que.
Dévisser les.
Non, pas forcément dévisser, mais je pensais plutôt à prendre le câble. Et le brancher
ah,
il faut
le câble oui ça, là,
parce que le câble vraiment
c'est simplifié ouais
c'est
vrai
entrée sortie
là
et...
tu peux pas trop... alors que c'est souvent une des problématiques c'est retrouver la bonne prise
voilà.
Mais, et là c'est vrai que c'est assez guidé.
Et là j'étais en mode oh mais c'est bon c'est du câble c'est facile je clique là où ça brille et voilà quoi et je me dis bon j'ai rien appris
et ben ça figure-toi que j'ai trouvé ça très réaliste parce que et je vais revenir sur l'aspect pédagogique et que c'est un jeu qui décomplexe par rapport à cette boîte noire pour beaucoup de gens.
Ah bah oui,
qu'est le PC. Et en fait, ce qu'on découvre quand on ouvre un PC, quand on décide de faire son PC, alors je suis pas un habitué, je l'ai fait deux fois. C'est-à-dire que j'ai acheté tous les composants séparés et vas-y.
C'est vertigineux.
Oui, mais on se rend compte et c'est là qu'on apprend aussi, qu'on découvre dans PC Building Simulator que c'est du Lego. Et que tes câbles, quand tu prends un câble, tu peux pas te planter. Il y a un seul endroit, enfin sauf quand il y a plusieurs prises USB, mais finalement c'est assez indifférent. Mais tu peux pratiquement, en tout cas c'est très compliqué, sauf pour quelques branchements spécifiques, c'est très compliqué de se planter de là où on va mettre un composant par rapport à une autre.
Ouais. C'est la recherche du port en fait qui est compliqué, c'est aller faire fouiller. Il est où encore ce port qu'on cherche là.
Il y a quelques branchements, notamment des branchements pour brancher des prises USB à la carte mère, et en fait, à ce moment-là, tu te retrouves avec des sortes de rectangle de fiches et puis il faut ficher à tel endroit
aujourd'hui en
mais
fait
mais il y a des notices qui sont très bien faites
Quand des doutes comme ça tu lances YouTube tu fais des recherches
et en fait moi je me rappelle des premiers moments où les premières fois où j'ai ouvert l'ordinateur mais pour moi c'était flippant
tétanisant.
On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on a presque l'impression qu'on va ouvrir le truc, ça va exploser ou c'est pas que ça va exploser mais ça va plus marcher même si on dévisse un truc quoi.
Il y a ce côté sacro-saint, on n'ose pas y toucher.
Je pense, moi je me rappelle encore la première fois où je me suis dit « Ah, c'est comme ça », c'est la fois où j'ai dû changer une barrette de RAM. L'expérience physique de quand on change une barrette de RAM, et en fait, je pense que ça change ton rapport à l'ordinateur. Ça veut dire quoi en fait,
tu rentres dans son intimité.
Non, c'est où tu rajoutes...
J'allais dire ça.
Non,
c'est terrible.
C'est ce moment où tu rajoutes une barrette de RAM. En fait, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, en fait, la barrette de RAM, c'est un truc tout en longueur, et il faut la mettre à l'endroit qui est prévu. En fait, il y a des encoches, donc tu peux pas te gourer de sens. Mais il faut appuyer. Et ce moment où on doit appuyer, non mais on doit effectuer une pression forte sur une carte mère. Au début, on se dit non, on n'ose pas. C'est un ordinateur, c'est des composants électroniques. J'ai pas appuyé comme un bourrin pour rentrer ma RAM. Et en fait, si. Il faut appuyer comme un bourrin, histoire que les deux les
ça,
deux trucs
pas,
pour
ça,
bloquer.
C'est vrai que dans le jeu, on l'a pas. On n'a pas cette
Alors,
pression.
On a
ce,
moment où
il faut déclipser.
Ouais. Il faut déclipser et tout ça. Donc ça c'est très réaliste. Et c'est juste pour dire que PC Building Simulator, bah, ça peut décomplexer, ça peut montrer aux gens que c'est possible.
Ça m'a limite donné envie de faire un PC.
Ah mais je suis d'accord, moi aussi.
Je suis un peu en mode, allez, je vais changer ma carte graphique.
Ça dédramatise.
C'est clair.
Et puis ouais, puis vraiment ce côté imbriqué, de gérer la boîte en même temps. Enfin, il y a vraiment, c'est une expérience totale. Et c'est ça que je trouve que j'ai réussi. Et même l'interface est bien entre le PC qu'on va allumer, parce qu'on a un écran de veille pour le lancer, voir le boot, etc. Le PC relié à Internet pour les commandes, ça marche super bien. Ça marche super bien.
Il faut juste noter que le jeu est en early access pour l'instant. Il y a encore pas mal de bugs. J'ai pu voler beaucoup de cartes graphiques d'ordinateurs que j'ai renvoyées sans réparer. J'ai fait sympa.
C'est bon.
Donc il y a certains ordi, je ne sais pas. Normalement, quand vous retirez des composants d'un ordi, il y a un petit post-it qui vous dit c'est la propriété de tel client.
Ouais.
Sauf que pour certains ordi, c'était pas le cas. Donc j'ai fait, écoute, je vais refuser la commande, je vais prendre tous les composants de l'ordi, je lui renvoie la COVID et on va pas broncher. Et j'ai attendu jusqu'au moment de recevoir une facture. Je me dis peut-être qu'il y aura une lettre de l'avocat de la personne. Non, donc je suis parti avec plein de cartes graphiques comme ça. Je teste le jeu jusqu'au bout.
Je suis déçu. Quoi,
en tout cas, l'idée est géniale. Et c'est vrai que c'est pas forcément vendeur quand on en parle comme ça, mais il faut vraiment l'essayer.
La réflexion que je me suis fait, en tout cas, que je me suis faite en avançant, c'est que j'ai peut-être enfin compris l'intérêt de la série Farming Simulator. C'est-à-dire que Farming Simulator, c'est un truc de niche. À l'origine, c'est clair, c'est destiné aux agriculteurs, ou en tout cas à des gens qui ont un contact, qui connaissent les marques
intérêt,
des tracteurs, qui peuvent être amusés d'acheter telle version de la moissonneuse et parce qu'ils ont rêvé de l'avoir et c'est trop cher, ou ce genre de choses. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est uniquement dédié à eux, mais c'est vrai qu'on peut s'intéresser à Farming Simulator, même si on vient pas de ce milieu-là. Mais finalement, là, je me suis dit, ouais, c'est un Farming Simulator pour des gens qui connaissent cet univers du PC, et ça permet aussi aux autres de le découvrir. Et finalement, voilà, ça marche.
Ah ouais, non, c'est clair.
Et j'ai hâte de voir ce que va donner la version complète.
Et puis, il est plutôt joli. Alors, on parle quand même de composants électroniques et de machins qui sont pas très beaux, mais je trouve que le jeu, il se tient graphiquement. Le fait de pouvoir se retourner autour du PC, de le tourner en tous les sens, il est propre, le jeu.
De toute façon, il est ergonomiquement bon,
de
manière générale. Et même le tutoriel est finement fait. Tu te sens pas. On ne tient pas par la main, mais on t'explique suffisamment quand même quand t'es un béotien comme moi, tu puisses t'en sortir.
Je trouve que c'est vraiment
très bien équilibré.
Il ne nous prend pas de haut, le jeu.
Le jeu ne prend pas de haut.
Il ne nous prend pas le haut en disant attends, on est dans le monde du gaming, accroche-toi. Non, c'est vrai qu'on est accompagné.
Hard rock.
Il y a presque, alors moi j'aime bien, je pars dans des. Mais c'est vrai qu'il y a le côté rapport par lettre avec les clients aussi. Il y a presque un petit rapport avec les gens. Ah ouais, j'ai une galère.
Est-ce qu'on peut parler des clients? Parce qu'il y a des arcs narratifs assez dingues.
Non, il n'y a pas un truc médical.
Moi, je suis tombé sur un écrivain. Et qui est genre, mon éditeur m'a forcé à lâcher ma machine à écrire. Il parle comme au théâtre. Et il dit, veuillez réparer cette machine du diable et tout. Et le mec, en fait, il te renvoie, genre, 6 fois d'affilée son ordi, parce qu'à chaque fois, il a une couille différente. Et tu le vois lutter contre la technologie. Ah, cher réparateur, vous êtes mon sauveur une fois de plus et tout. Et c'est trop drôle.
Mais ça, c'est tout bête, mais c'est en quelques mots. Et ça arrive à créer des personnalités. Et tu te fais tout un film et ça fonctionne.
T'en as un qui décharge des films de série B. J'ai chopé un virus sur le dark web.
C'est vrai que c'est vraiment rigolo. Ouais.
Allez, c'est pas gagné. On va rester concentré pour la suite de ces émissions. Donc c'était PC Building Simulator sur Steam, c'est une dizaine d'euros, je crois.
Oui, j'ai pas noté.
15, 10, 15.
Il faut qu'on vous sait.
On continue avec. Alors là, c'est un gros point d'interrogation. Je vous explique. Alors il va l'expliquer lui-même. Mais il y a un moment où Corentin il a dit je vais essayer un jeu, j'en parle demain. Dans Silence on joue. Donc Corentin y a joué hier, ça s'appelle Super Weekend Mode. Formidable. En tout cas, c'est très engageant.
C'est joyeux.
N'est-ce pas, Patrick?
Sonorité rétro.
Oui, non, c'est bien, c'est bien.
Enjoué,
c'est bien.
Comme ça du matin.
Alors, il faut qu'on raconte ce qui s'est passé hier. Parce que nous, à la base, on voulait jouer à Fortnite.
Alors, une organisation vraiment précise. On donne rendez-vous à tel
jour. On était prêts.
Moi, je rentre du travail. Erwan et Patrick. Patrick avait une soirée. Il rentre. Et on était censé jouer à Fortnite pour pouvoir en parler aujourd'hui. On va quand même en parler parce que Patrick a pu y jouer quand même plus que nous. Mais voilà, moi, je voulais quand même un peu y jouer et tout ça. Et Erwan aussi, parce que Erwan a beaucoup vu sur Twitch, mais il n'a pas pu trop y jouer.
Non, on appelle ça pas vu sur Twitch, on appelle ça jouer par procuration.
Étudier, ouais.
Non, c'est autre chose.
Et en fait, pas de chance, parce que le seul soir on voulait jouer, mais Fortnite est tombé en panne dans le monde. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait plus aucun serveur qui fonctionnait.
Ils n'étaient pas prêts pour l'arrivée de Silence on joue sur leur serveur, ces gens-là.
Ils n'étaient pas prêts.
Moi, je pense qu'ils ont eu peur.
Je pense qu'ils ont eu peur.
Ils ont eu peur, on est espionnés, et voilà, le jeu le plus joué sur la planète en ce moment est tombé le soir où on voulait se faire une partie en multi. Super.
Donc, on était un peu désespérés, mais qu'à ça ne tienne, on a décidé.
J'ai relancé mon Commodore 64, moi, du coup. Chacun est parti vaquer à ses occupations.
C'est pas grave. C'est pas grave, et je dis, nous allons essayer le nouveau Battle Royale de Cliff Bleszinski, Radical Eight.
Tu sais que tu as une formidable idée. Non, c'était bien.
J'en avais entendu parler, j'avais pas osé le lancer, et nous l'avons lancé.
Alors, le jeu bug de ouf. Alors, le jeu est tellement moche, pour de vrai, hein, que quand il s'est lancé, j'avais un bug graphique, ça fait que le jeu était qu'en rose et en violet et en vert. Mais je pensais que c'était la VDA, moi. Donc, en fait, j'avais pas de problème avec ça avant que je l'enlève le plein écran et me rende compte que non, il était juste moche, mais pas à ce point-là. Et on n'arrivait pas à le lancer parce qu'à mon avis, tout le public de Fortnite est venu sur Radical Eight.
Exactement, c'est un phénomène même sur Twitch hier, vous voyez tous les gens qui étaient en panique, il n'y a plus Fortnite, on va me lancer quoi, etc. Et je pense que le jeu, ouais, il a souffert d'un arrêt massif de joueurs. C'est vrai qu'il est très laid.
Enfin, bon, il a pas souffert que de ça, hein. il a souffert de lui-même.
C'est que sur le papier, il est plutôt séduisant, hein, dire on fait un Battle Royale très orienté 80 avec plein de clins d'œil, machin.
Mais je pense qu'on pourra en reparler parce que le jeu est
Moi je vais le relancer, c'est vrai qu'hier, moi j'ai eu deux. En fait, moi j'ai arrêté.
Il m'intrigue, il m'intrigue.
Il a craché deux fois mon PC.
Tout ce que vous voulez qu'on en reparlera. Jamais parce que ça. Mais non, mais c'est sérieux.
Il est moche, il est moche.
Sans vouloir t'offenser, Patrick, mais il y a moment. Avoir années 80 dans le discours marketing, c'est à jeter à la poubelle.
Moi, j'étais un peu gêné, je me suis retrouvé sur un BMX à un moment dans la salle d'attente et je me suis cassé la gueule 3-4 fois. J'ai dit, j'ai eu des crashs de PC.
On en reparlera ou pas, c'est en free to play. N'hésitez pas à aller essayer, en tout cas, c'est sur Steam.
N'y allez pas.
Et donc, Erwan fait, c'est pas grave, on parlera. Et moi, je fais, non, je vais aller sur Steam, je vais trouver un jeu à moins de 3€ et j'en parle demain. Il me croyait pas, mais en fait, si, je l'ai fait. Donc, je suis allé dans les sorties récentes.
Moi, je suis allé me coucher. J'avais des enfants à l'école.
Et je suis tombé. Alors, j'étais un petit peu attiré par les jolies icônes. Parce qu'en général, il y a beaucoup de jeux d'échecs à moins de 3€ sur Steam, voire moins 1€. Il y a beaucoup de jeux. Il fallait dessiner des poissons, hein, voilà, pourquoi pas. Il y a aussi des jeux de fléchettes, mais il y avait aussi Super Weekend Mode.
Alors,
des jeux de fléchettes. Si tu veux, on pourra en parler, c'est à moins de 1€. Je peux tout le tester si tu veux.
Il y a un mode multi ou pas ?
Je ne sais pas. C'était pas en VR en tout cas, Patrick. Je suis désolé.
Parce que le jeu de fléchette en VR, ça peut faire très mal si tu te places mal. Enfin bon.
Alors, et on pourra en parler rapidement. Je suis tombé sur Super Weekend Mode, qui est un petit jeu qui a été fait par un studio londonien. C'est une personne plus une autre personne qui a fait la musique, qui s'appelle Pixel Teriyaki et qui a fait un jeu alors très arcade japonais avec des graphismes, on va dire très rétro évidemment, un peu à l'instant star de la musique qu'on a entendu, qui pourrait rappeler, alors pour ceux qui connaissent, c'est un autre jeu qui est gratuit qui est plutôt sympa, qui s'appelle Princess Remedy in a World of Earth. C'est gratuit, vous pouvez aller essayer, mais c'est un peu le même genre de graphisme, c'est-à-dire beaucoup de noir, des personnages en sprite d'une seule couleur, et ça donne un petit cachet un peu sympa au jeu, un petit peu rétro, et il s'agit d'une espèce de mélange entre un shooter, jeu de rythme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est assez étonnant. Donc on contrôle deux vaisseaux, que vous contrôlez en fait avec deux touches, et en fait vous allez alterner deux positions, donc en fait, et il faut rattraper les cœurs qui tombent, en même temps tirer sur le boss et éviter les crânes qui tombent du ciel. C'est très simple, c'est vraiment très arcade. Il y a un système de combo, il y a un système de scoring qui est intéressant. La musique que vous avez entendue, elles sont toutes du même niveau, toutes très très punchy, avec un style un petit peu kawaii moe du Japon. En même temps, le jeu s'appelle Super Weekend Mode, donc on pouvait s'attendre qu'à ça. Et le jeu est en fait super addictif. Je m'attendais à un truc pas trop. Je suis en mode bon, ils se foutent. Voilà, c'est un jeu à la con mis sur Steam. Le mec a mis les assets possibles. Non, il y a de l'âme dans ce jeu. Il y a un mec qui a réfléchi à un game design. Il y a un mec qui s'est dit, tiens, je vais faire une super musique punchy, un peu kawaii. Bon, c'est pas le style de tout le monde, mais en attendant, elle a été faite. Et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, tiens, je ressens un peu la même chose que quand j'ai joué à l'époque à Downwell. Je sais pas si vous vous rappelez Downwell, qui est ce jeu qui a été fait par un développeur qui s'appelle. Alors pas si simple en vrai. Mais
premier contact, c'est quoi ce truc? Et en fait,
qui est un jeu donc qui a été fait par Mopin, qui est un développeur indépendant japonais, et qui maintenant est boss chez Nintendo, comme quoi ça mène, hein, ça a fini par payer. Mais voilà, j'étais en mode, c'est bien, c'est des jeux où un mec s'est dit, tiens, j'ai une idée de gameplay, je vais essayer de le mettre en place avec un système de jeu réfléchi avec des combos, machin. Alors il y a des bugs, il y a quelques bugs, ça va, dans l'ensemble, il est plutôt propre pour un jeu, puis c'est la version 1. Mais j'étais très satisfait de voir qu'il y a encore cette possibilité de se dire, tiens, j'ai limite fait un fan game comme on fait des illustrations dans son coin original ou machin. On est vraiment face à un... Alors, c'est un jeu fait sous Unity, hein, évidemment. Comme de toute façon, toutes les barrières de construction de jeu ont été abaissées parce que maintenant, on peut faire du game maker, on peut faire du Unity. Mais là, quand je tombais face à ce jeu, je me suis dit, c'est quand même cool de voir qu'une personne dans son coin, plus un mec aux musiques, voilà, ça te fait un jeu complet qui coûte... Alors, je vous dis le prix, 1,79€. Alors là, il est à moins 40%. Donc, voilà. Donc il était 1,79€. Normalement, il est à 3€. Mais je crois même qu'il se trouve sur itch.io pour Name Your Price. Donc voilà, le mec est vraiment dans une démarche absolument, voilà, donner ce que vous voulez, limite festival, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'étais tombé sur ce jeu par hasard. Je me suis dit, tiens, il n'y a que des jeux de merde qui sortaient sur Steam à ce prix-là. Eh ben non, il y a des très bons jeux aussi. Après, Donwell était à 3€. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. En tout cas, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Ça s'appelle Super Weekend Mode. C'est très arcade. Ça pisse pas très loin, mais ça pisse bien.
Écoute, voilà. Ah bah, c'était dit, une très bonne idée, tu nous feras ça toutes les semaines. Voilà.
Très bien.
Merci.
Moi, je suis prêt. On peut faire une rubrique le jeu à moins de 3€.
Alors, pourquoi parler de Fortnite maintenant ? Pourquoi parler de Fortnite maintenant ? On avait parlé de PlayerUnknown's Battleground à la fin de la saison dernière. Et Fortnite est arrivé, je crois, de mémoire, en septembre 2017, un peu sur...
Fortnite
Battle Royale, le mode Battle Royale, à l'origine, c'était un survival de construction.
C'est ça, un peu Tower Defense, je crois, il avait une petite composante...
Développé par Epic, hein, donc Epic, voilà, c'est pas n'importe qui, mais qui vivotait dans les limbes des jeux, des survival, hein. c'est un peu ça en ce moment, il y a un monde des survival qui est une sorte de subreddit de Steam et voilà, ils vivotaient et puis il y a un moment où on voit le Battle Royale émerger et puis ils ont décidé de faire un Battle Royale en s'inspirant très fortement du système de jeu de PlayerUnknown's Battleground, bien sûr, au point d'en irriter PlayerUnknown, hein, Brendan Green qui s'était agacé. En fait, pourquoi il s'était agacé? Parce que ça a monté très vite, Fortnite Battle Royale et Free to Play.
Hein, ça, et puis ça, surtout, lui, il bossait sur Unreal et il a commencé à dire, mais les gens d'Unreal, ils voient sur quoi je travaille, enfin, ils voient comment UBG évolue, donc c'est peut-être pas juste qu'eux puissent faire aussi de leur côté, reprendre les méthodes, etc.
Et donc, Fortnite a commencé à bien marcher, mais PlayerUnknown tenait bien la barre en tant que défricheur, hein, du genre. Et puis l'inévitable est arrivé, Fortnite a dépassé et maintenant, c'est devenu carrément un phénomène. Pour tout vous dire, Fortnite est au mois de mars, qui vient de se terminer, au mois de mars 2018. C'est le deuxième jeu à avoir dépassé les 100 millions d'heures de visionnage en un mois sur Twitch. La première était League of Legends, avait battu un record, donc avait un record à 103 millions. Et au mois de mars, Fortnite a fait 118 millions d'heures de visionnage. C'est de l'ordre du phénomène à ce niveau-là.
Ah, c'est clair.
Avec des streamers qui prennent peut-être la moitié de l'audience de Twitch à eux tout seuls, un mec qui s'appelle Ninja notamment.
Qui est reconnu c'est un effet boule de neige. Dès qu'un jeu comme ça commence à prendre du buzz, à monter en puissance aussi vite, il y a un effet boule de neige. C'est-à-dire que ça emmène tout le monde, ça emmène via Twitch, YouTube, les communautés.
C'est comme ça que PUBG a fonctionné. Et oui, aussi
le côté, y a une recette toute simple.
On va juste écouter parce qu'on va plus précisément ensuite. J'ai fait une très longue introduction, mais on va donc parler de Fortnite Battle Royale. Fortnite Battle Royale, Patrick, allez.
Ouais, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du Battle Royale, c'est quoi, on rappelle en deux mots, hein, donc 100 joueurs, une carte qui se rétrécit, il doit en rester qu'un à la fin, la Highlander, un peu, il en restera qu'un. Alors moi c'est marrant, on parle Battle Royale, c'est un peu, bon évidemment c'est référence au film début 2000, année 2000, moi je pense plutôt, ça devrait plutôt s'appeler Tu n'es pas joué, je sais pas si vous vous rappelez de ce pré-générique du Bond de 87, où t'avais des agents comme ça qui étaient livrés à eux-mêmes sur le détroit de Gibraltar, et c'est pas, pour moi c'est plus, c'est pas la même échelle, parce que c'était pas 100, hein, mais et pareil, ils se mettaient sur la tronche. Voilà, bon, c'est un, ça me rappelle plutôt ça, mais chacun ses références, évidemment. Fortnite, c'est colossal, on le disait, les chiffres. C'est un genre qui est monté en puissance très vite, en fait, le Battle Royale ces derniers temps. Ça s'est complètement embrasé. Alors, c'est vrai qu'il y a une mécanique de jeu qui est super addictive. On en avait parlé déjà sur PUBG. Sur ce côté, en fait, contrairement aux multijoueurs, on va dire, classique, où très vite notre niveau de joueur nous saute à la figure, c'est-à-dire qu'on peut très vite, on n'arrive pas à suivre la cadence, etc. Je trouve que sur ce système de Battle Royale, on a toujours cette sensation d'avoir sa chance, d'avoir toujours une possibilité de se débrouiller différemment. Il y a toujours cette ouverture, je trouve, dans le gameplay qui fait qu'on a la sensation qu'on peut s'en tirer.
Comme disent pas mal de mes amis, il n'y a qu'un seul kill à faire et c'est le dernier. Et ça résume parfaitement. Ouais,
mais oui, on peut vraiment s'en sortir comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est cette catégorie de jeu, elle cartonne pour ça. Et puis, Fortnite, donc carton, tu en parlais, Erwan, colossal ces dernières semaines. Il a vraiment tout emporté avec
lui. Alors, il y a des statistiques, mais alors le problème de ces statistiques faites par des agences de machin, tout ça, c'est que c'est absolument pas sourcé. On ne sait pas d'où ils tiennent ça. Mais. Au mois de mars, la statistique à la con, hein, un joueur sur 6 ou sur 7
c'est monstrueux.
Dans le monde aurait joué à Fortnite.
Alors, ça force
alors,
évidemment.
Pas moi, parce que ça marchait pas. Je tenais juste à le préciser.
Pas de chance. Mais non, mais il a une espèce de cocktail ultime, en fait. Qui reprend donc une mécanique qui est déjà à la mode avec PUBG, qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà une grosse communauté sur ses serveurs. Il ajoute à ça un aspect Minecraft, construction, destruction du décor. Et ça plaît, évidemment. On se croit pas, parce que dans Red Faction, parfois on peut péter les murs, descendre, etc. Moi j'ai vu des joueurs de haut niveau qui s'amusent à construire des escaliers en courant, qui jouent vraiment avec le côté.
Mais c'est à la base, hein, quand on construit des escaliers en courant.
Qui multiplient, mais à une vitesse folle. Enfin, moi, des fois, j'ai même du mal, des fois, à suivre les vidéos. C'est assez colossal, le côté comme ça de multiplier les. Il y a le business model du free to play, évidemment, qui est bien foutu en plus, qui permet de rentrer facilement. On peut jouer des heures sans mettre un centime d'euro.
C'est du free to play cosmétique. Hein.
Techniquement,
tu peux jouer à Vitam Eternam sans mettre
très longtemps sans mettre d'argent. Et puis, il est partout. Il est sur toutes les machines. Il est sur PC, sur console. Il est vraiment partout. Donc, il est partout. Il est un peu incontournable. Et encore une fois, il a aussi un look plutôt friendly. Enfin, il a un côté moins réaliste que PUBG, qui n'est pas toujours très joli.
PUBG avec sa gueule d'arma, c'est sûr qu'il
n'est pas très accueillant. Et là, c'est vrai que c'est coloré quand on lance le jeu. Il y a une peps, il est rapide, on saute dans tous les sens. Il est rapide. Les parties
presque.
Enfin, et c'est ce que je disais, quand je suivais des vidéos, quand on voit les mecs qui enchaînent, c'est dur à suivre parfois. Et c'est ce qui fait que je crois que le jeu plaît beaucoup, même aux ados ou aux plus jeunes, parce qu'il y a un côté moins violent. Visuellement, il a un côté plus accueillant, plus facile à. Enfin, on se lance tout de suite. Et c'est vrai qu'il a, une vitesse de jeu. Une fois, les parties s'enchaînent très très vite. On va très très vite. Et
c'est vrai que moi, j'ai vraiment analysé le phénomène Fortnite. Il s'est imposé parmi les joueurs. En fait, je pense que. On l'a dit, il se regarde beaucoup moins facilement que se regarde PlayerUnknown's Battleground. PlayerUnknown's Battleground, sur Twitch, se regarde facilement. Il est très pur, il raconte une histoire. On est embarqué avec le joueur dans cette histoire qui va durer peut-être une demi-heure si on arrive jusqu'au bout. En tout cas, à regarder une partie de PlayerUnknown's Battleground, c'est totalement naturel. On rentre très vite dans la narration du jeu. Rentrer dans une partie de Fortnite est un cauchemar.
C'est très dur.
On comprend rien, ça construit dans tous les sens.
ça casse des arbres.
Ça casse. Là, je pense qu'il y a un coffre au grenier. Enfin, tu sais pourquoi. On comprend pas. Et en fait, je pense que Fortnite s'est imposé sur Twitch avant tout parce qu'il faut y jouer pour le regarder après. Et je pense que quand on y a joué, le fait de regarder, on le comprend. Enfin, on comprend. En fait, Fortnite est beaucoup plus basé sur son game system. Le système de construction est brillant. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est totalement fluidifié.
Gérer les ressources.
Et là où il est très, très différent d'un Minecraft ou ce genre de choses. On construit des escaliers ça se fait très bien. On récolte des ressources et puis on va construire des structures avec différents matériaux. Les structures cultures servent à quoi ? Elles servent à trois choses, à observer, à franchir des obstacles et à se protéger.
À se protéger, ouais. Voilà. Et là, on se retrouve et donc avec des mécaniques qui viennent d'autres jeux, finalement, mais qui fusionnent. On est encore sur un jeu fusion qui ramène comme ça à la fois du loot, avec de la ressource à récupérer, avec de la construction à la Tower Defense, du shoot en multi. Il arrive à fusionner tout ça.
Pas alors, vraiment à la Tower Defense, là, en l'occurrence, que t'es Tower Defense. Y a
après, de toute façon, t'es face à ces 100 mecs, enfin 99 mecs en face de
non,
toi.
Non, mais c'est plus proche d'un Minecraft où on construit vraiment sa maison, quoi. Après, sauf que là, c'est on va construire son fort. c'est Fortnite, c'est ça. En plus, le fort de Fortnite doit venir de Fort, je pense, j'imagine. Ouais.
Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est qu'entre la sortie de Fortnite et maintenant, on voit bien qu'il y a un metagame qui a évolué.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est assez marrant de voir, par exemple, les finishes de Fortnite,
oh
là
non,
où il n'y a plus que, deux ou trois joueurs.
Ouais, ils font quoi alors
ils font des forts.
Ils construisent des forts immenses.
Ils font des forts.
Ils se cherchent à l'intérieur, ils cassent les murs, ils en construisent.
C'est très drôle parce que les débuts de Fortnite, quand on était encore au mois de septembre, octobre, on sentait que les joueurs, d'une part, maîtrisait pas trop la construction. C'est des choses c'était un peu c'était un peu comme PUBG mais avec des graphismes différents, un peu plus énergétique et tout ça, enfin énergique. et aujourd'hui, il y a une vraie méta qui a évolué avec Fortnite où il y a la fin le end game à la fin, chacun construit son fort quand il y a plus qu'une petite zone pour aller en hauteur, pour voir les adversaires et pour voir où sont les donc du coup, il y a comme ça une méta de finale de Fortnite qui est super intéressant.
Après, moi, hier, j'avais deux écrans. On en parle beaucoup de ces deux jeux. On les compare parce qu'ils sont sur deux, je pense, deux publics quand même différents, deux goûts de jeux différents. J'avais deux écrans avec deux parties, mais ça n'avait rien à voir.
Complètement différent.
Et je parlais justement des joueurs qui s'amusent à construire, donc à construire des bâtiments, mais aussi à s'amuser avec les marches, à les utiliser dans le gameplay. Enfin, c'est ça qui est fort dans ce titre, c'est qu'il arrive vraiment à dynamiser son gameplay par ses outils de construction, etc. Et c'est vrai qu'à côté, un PUBG, c'est beaucoup plus calme, si on peut dire. Enfin, les parties sont beaucoup plus posées.
C'est le premier qui repère l'autre dans PUBG.
Est-ce qu'on peut parler d'un jeu plus tactique, je pense. Je pense qu'une partie est plus tactique sur PUBG, finalement. Alors, peut-être qu'on va me lancer des jeux, parce qu'il y a aussi de la tactique dans
Fortnite. Non, je pense que c'est vraiment une question de rythme. C'est une question de rythme.
Des façons d'appréhender. Mais les deux ont leurs qualités et défauts. Je pense qu'on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir chez l'un et chez l'autre.
C'est clair, c'est sûr.
Avec des vraies propositions différentes.
De toute façon, on sera amené à reparler de Fortnite si on veut avoir un peu de temps pour finir cette émission. On va y retourner là, peut-être une autre fois. Ces serveurs seront ouverts.
Oui. Puis il y a plein d'autres. Enfin, il y a aussi comment s'appelle Paladin qui s'est mis aussi au mode Battleground. Enfin, c'est la mode. Donc, je pense qu'on pourra à la limite faire un benchmark de tous ces Battle Royale.
Et puis il faut voir ce qui va se passer. Moi, je suis très curieux. Je pensais que ça allait arriver avec les jeux de 2017, mais c'était trop tard, évidemment, parce que le Call of Duty de 2017, ils n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait avec PUBG.
Et avec Fortnite,
alors, il faut savoir que j'ai parlé des statistiques de Fortnite au mois de mars. La conséquence des statistiques de Fortnite au mois de mars, c'est des baisses.
Oui, bien sûr, sur les gros jeux.
Assez caractéristiques des actions d'Activision.
C'est dingue.
Et là, les mecs, ils vont pas rester sans réagir.
Non, mais je sais pas si vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et que Call of Duty, évident. On sait déjà, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais on sait déjà qu'il y aura forcément un mode Battle Royale dans le prochain Call of Duty. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est obligatoire. À voir si, je pense qu'aujourd'hui, un moteur de Call of Duty n'est pas prévu pour accueillir 100 joueurs. Mais ils vont être obligés d'adapter ça. Donc, c'est ça qui est.
Il faut trouver les mécaniques pour venir se frotter maintenant.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, on a. Pour l'instant, on a Epic, même si c'est un nom connu, c'est quand même pas une méga structure, mais qui commence à engranger un sacré paquet de millions d'ailleurs, par ailleurs, parce que ça fonctionne, au modèle économique.
Ils ont leur moteur.
C'est avant tout un fournisseur de moteurs qui
Oui, mais ça va changer. Je pense que ça peut changer la structure d'Epic
eux-mêmes, je suis pas sûr qu'ils ont forcément vu le truc venir.
Et là, on va voir tous les Battle Royale qui vont débarquer. Il va y avoir une saturation. Et je pense que. Comme dans un Battle Royale, est-ce qu'il ne pourra en rester qu'un dans les Battle Royale?
C'est drôle, c'est méta!
Mais
c'est
oui!
Trop bien.
Il va y avoir un Battle Royale des Battle Royale, ça va être rigolo! Ça va être rigolo!
Le jour où il y aura 100 BR, peut-être que.
Mais encore une fois, il faut ressouligner la facilité d'accès, c'est un free-to-play en deux clics, on le télécharge.
C'est vrai qu'il y a ça.
C'est vrai que PUBG, il reste exclu Xbox et PC
bien.
Aujourd'hui.
Alors, on dit qu'il s'est fait complètement marcher dessus par Fortnite, il continue à bien marcher.
Bien sûr,
je pense qu'il y a deux choses déjà, comme tu disais, les free free-to-play, PUBG ne l'est pas. Et surtout,
ils sont complémentaires, moi je pense, les deux.
Non, non, c'est sûr.
Je pense qu'ils sont complémentaires.
Mais il y a autre chose qui a fait beaucoup de mal à PUBG, c'est les tricheurs.
Ah oui, les tricheurs.
Qui ont vraiment. Les gens en ont eu marre, quoi, dans l'ensemble. Et en fait, Fortnite a commencé à décoller à ce moment-là. Je pense que ça s'est bien goupillé.
Pile au moment.
Donc je pense que PUBG et Fortnite, en fait, ont eu un changement de dynamique simultané, en fait.
Et il faut voir aussi, dernier point sur Fortnite, c'est qu'au mois de mars est sortie la version iOS de Fortnite. Pas de version Android pour l'instant.
Tu l'as essayé, du coup ?
Non, j'ai pas la.
Mais PUBG, c'est pareil.
Et là, on va arriver. Le graphisme de Fortnite se porte beaucoup mieux sur un smartphone. À des années-lumière. C'est-à-dire que.
Il y a un petit côté WoW de l'époque.
Oui, et puis même
les
ennemis, les tirs sur un pixel dans Fortnite, c'est aussi le but, on tire de loin, etc.
Le code couleur est plus simple à gérer sur un petit écran.
Et il n'y a pas de balistique dans Fortnite.
Ouais, alors que.
Il y en a un peu quand même.
Ouais, enfin, c'est peanuts par rapport à la balistique ultra réaliste de PUBG. Donc, tous les systèmes de jeu de PUBG qui sont des systèmes hyper hardcore qui se portent assez moyennement. D'ailleurs, on voit par exemple dans le PUBG mobile, on ramasse automatiquement les loots. C'est assez choquant.
Ah ouais. T'as plus la touche pour.
Non, bah, ils ont été obligés de simplifier. Donc, tu ramasses automatiquement les loots. Ça se fixe automatiquement. Donc, forcément, dans PUBG, quand on le porte sur mobile, on est obligé de faire que des concessions. Alors que Fortnite porté sur mobile reste pratiquement le même.
Il y a un truc, moi, qui m'a marqué, la différence entre les deux, c'est le saut du début quand on est parachuté. PUBG, il y a une sorte de silence, un peu de stress. Et quand t'es dans Fortnite, il y a une espèce de fiesta avec des gens qui crient. Enfin, c'est marrant, tu vois.
C'est le parti bus.
Non, mais vraiment, il y a une différence d'entrée tout de suite. Mais moi, je conseille vraiment de tester les jeux. Enfin, quand on s'intéresse un peu au tout.
Bien sûr.
Je pense qu'il faut vraiment essayer les deux jeux.
Oui, bah, on a essayé, Patrick, c'est bon.
On en reparlera quand on pourra se lancer dans la même partie.
On parlera de Radical 8.
Allez, on va quand même garder quelques minutes. Autrement, Patrick va nous en vouloir à vie. quelques minutes pour parler du Commodore 64 Mini. Le Commodore 64. Alors, je vais laisser Patrick en parler parce que j'ai pas testé ce Commodore 64
Mini.
Non,
mais il faut quand même rappeler à nos auditeurs que c'était ta première machine.
Ouais,
ça marque toujours la première machine.
Commodore 64, lecteur à cassette, lecteur à cassette externe.
On va pas te demander l'année, ça serait un peu indécent, mais tu as
voilà, l'époque 82.
Alors là, vous le voyez pas, mais il me regarde tout le temps. Ah, t'as pas connu ça, toi, hein, t'as
pas connu... Non, faut pas être comme ça.
C'est pas du tout
le but. Justement, des propositions comme le 64 Mini, aussi pour...
Ça permet de leur découvrir.
Ah oui, pour certains. Ça va peut-être être difficile pour eux de se plonger dans ce qu'est un Commodore 64 en 2018, quand on n'a pas cette fibre nostalgique. On rappelle en deux mots, donc le C64 Mini, c'est une machine qui vient de sortir donc un peu tout en un. C'est vraiment dans la lignée de la Super NES Mini, la NES Mini, version miniaturisée d'un appareil de l'époque. Là, on parle du Commodore 64, lancé, donc machine américaine, lancée en 82.
Britannique ?
Américaine.
Ah bon ?
Aïe.
Ah mais non, oui, pardon.
Américaine.
Pardon. Je sais pas.
C'était Spectrum.
Spectrum. Du coup, réplique miniaturisée de cette machine culte, parce que le Commodore 64, il a vraiment guidé les années 80. C'était vraiment une machine phare de l'époque. Et donc, version réduite, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec physiquement un Commodore 64 tout mignon. Il est tout petit, il est pas très grand.
Bah comme la SNES, c'est la NES Mini. En fait.
Exactement. Et comme pour elle, on a un vrai souci de reproduction du boîtier d'époque. Donc ça fait plaisir parce qu'on a vraiment une finition très sympa.
Sauf que le boîtier de l'époque, rappelons-le, le boîtier de l'époque était un clavier.
Et là, on n'a pas l'usage du clavier qui est mini. Bon, ça, très franchement, c'est pas très grave. Moi, je trouve qu'il y a quand même il y a un souci de reproduire une machine historique, et ça, ça fait plaisir, avec les coloris, le toucher retouche, rappelle vraiment la machine d'époque. Donc ça, ça se passe plutôt bien. Donc branchement en HDMI, ça aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même important de souligner.
Bah, s'il l'avait pas fait en même temps, on l'aurait dit...
En Péritel.
En Péritel,
ça aurait été un vrai parti.
Ou alors via la prise de satellite, antenne.
Ça aurait été compliqué. Donc ça, ça se passe plutôt bien. On a donc une sélection de 64 jeux. Alors, et on va brancher une réplique du Pro 5000, cette manette que moi j'ai eue à l'époque. Alors, la manette d'origine, elle était incroyable. Le Pro 5000, enfin, c'était une famille de... Moi, j'en avais une qui s'appelait le Pro 5000. Regardez le visuel. Donc, on avait le stick qui sortait avec deux boutons comme ça. Indestructible. Moi, j'en ai un que j'avais sur mon Amstrad. Il est indestructible. Il fonctionne encore.
Alors, parce qu'il fallait savoir que, avec des jeux du type Summer Games, Decathlon,
les
joysticks qui n'étaient pas indestructibles étaient détruits.
Ah, moi, j'avais la manette officielle Amstrad qui était affreuse. Il n'a pas tenu le choc. Par contre, le Pro 5000, cette fameuse manette, elle avait un micro-switch. Et on entendait le petit clic-clic-clic quand on changeait de direction. Et ça, c'était d'une précision. Là,
comme les pads arcade actuels, en fait.
Et on avait vraiment cette mécanique, ça marchait super bien. Alors, c'est là quand on est tout content, on branche son C64 mini sur le téléviseur, on laisse une petite place sous la télé pour la déco, c'est génial. On branche la manette, on lance, on a donc ces 64 jeux, et là, on commence à manipuler la manette, et là, on déchante. Parce que là, c'est vraiment le point noir de cette version.
Le joystick n'est pas indestructible.
Mais non, c'est pas ça, mais on s'en fout que ce soit pas destructible ou pas, c'est qu'il est pas précis du tout. Il n'y a pas du tout le... On retrouve pas ce système de micro-switch. En fait, il est tout mou. Il n'est pas précis. Du coup, c'est pas du tout évident de. En fait, on se trompe souvent de direction. On n'a pas cette précision du Pro 5000 et qui est au niveau, effectivement, Corentin, tu me disais, je pense qu'en termes de solidité, je pense pas qu'il sera encore là dans 30 ans comme j'ai encore mon Pro 5000 qui fonctionne toujours.
Mais c'est qui l'a construit cette version miniaturisée?
Je crois que c'est Retro Game. C'est une boîte qui est spécialisée dans l'édition de machines comme ça. Donc, on passe sur ce point noir, vraiment, cette manette qui... C'est quand même dommage, parce que c'est quand même le truc qu'on a en main quand on joue, et ça, c'est quand même rédhibitoire d'avoir une manette un peu molle et qui répond pas forcément... Bon sang, c'est le cœur du truc. Donc, j'ai commencé à me renseigner. A priori, j'ai pas essayé, mais on peut le remplacer. C'est-à-dire qu'on a deux ports USB sur la petite machine.
Ah oui, c'est en USB, donc ça doit se bidouiller.
Il y en a certaines qui sont pas compatibles. On peut bidouiller et sûrement brancher une autre manette. Donc, on peut se débrouiller pour, a priori, pallier à ce problème. Tout n'est pas acheté en cette manette parce que malgré tout, malgré ce côté un petit peu mou de la direction, on a toutes les fonctions, on a plusieurs touches sur la manette, donc on peut revenir sur les menus. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément sur les NES et SNES Mini, si je dis pas de bêtises. Fallait des fois se relever. C'est aberrant, se relever et aller appuyer sur le reset.
C'était...
Je crois qu'il y avait une manip, c'était pas évident. Alors,
après, pour la défense de la NES Mini, les câbles étaient tellement courts que t'avais pas besoin de te lever en général.
C'était horrible. Le câble est assez long pour que je joue de mon canapé. Bon, j'ai un petit appartement en même temps. À Paris, on n'a pas des lofts gigantesques. Donc moi, je peux jouer de mon canapé en tirant un petit peu. On a une manette finalement qui a des fonctions, voilà, pour revenir les menus, pour tout gérer.
Les jeux,
64 jeux. Alors évidemment, il y a Boulder Dash. Moi, c'est celui sur lequel j'ai dû passer une heure l'autre jour.
Boulder Dash.
Mais ouais, parce que
Boulder Dash.
Et là, c'est là où on se dit, mais
arrêtez tout.
Les vrais classiques, ils vieillissent pas. Et j'ai vraiment scotché. J'ai vraiment passé une heure dessus.
Arkanoid.
Il y a pas Arkanoid. Alors voilà. Alors on arrive sur un ordinateur mythique. Qui a un pivot des années 80. Le C64, il a vu naître les Maniac Mansion. Il était incontournable dans les années 80, cet ordinateur. Et on n'a qu'une sélection de 64 jeux. Alors déjà, c'est un challenge de réduire une machine aussi mythique à 64 jeux. Et puis, dans les 64 jeux, il y a plein de jeux qui sont pas bien. Il y a des jeux qui sont plutôt hors sujet. Il y a le... Comment il s'appelle, bon sang, le... Alors, j'ai plus le titre en tête. Le Speedball 2. Alors, Speedball 2, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu Amiga. C'est un jeu qui était vraiment profilé ST Amiga 16 bits. Il est là, en Commodore 64. Il y a plein de jeux que je connaissais pas, des jeux très british, alors que, bon, ça c'est très bien, mais... Bon, c'est pas forcément...
Oui, Speedball 2 est sorti à une époque où le Commodore 64
bien sûr,
était...
En fait, il y a quelques jeux de 91, 92, 93. Alors,
mais
c'est pas une époque
Commodore.
Oui, parce que c'est l'idée, c'est un peu d'avoir toute l'histoire du Commodore. Mais non, ce qu'on veut, nous, c'est le Commodore 64 quand il était...
Coldrone 2.
Il n'y a pas les Coldrone. Alors attention, moi j'avais... Comme ça, j'ai pas arrêté de noter en jouant, en me disant, bah tiens, il n'y a pas Barbarian. Oh, il y a pas The Last Ninja. The Last Ninja, c'était un excellent jeu d'aventure arcade,
incontournable,
qui était excellent. Maniac Mansion, il y a aucun jeu CinemaWare, les amis.
Ah non.
Y a aucun jeu mais non, mais après, faut pas se leurrer, faut pas être naïf. C'est des problèmes de droit, de licence qui sont évidents.
On t'a envoyé le truc parce que
Non, mais j'ai précommandé. Ah,
sinon, ils t'auraient pas envoyé. C'est vrai qu'il y avait pas CinemaWare. Ah,
non, j'ai craqué évidemment parce que non. Encore une fois, je critique, mais moi, j'aime le principe de dire, on redonne un peu de voix à Commodore 64. Après, il y a quelques jeux vraiment sympas.
Il décorera.
Il y a Boulder Dash, j'ai passé une Avenger, je sais pas si vous vous rappelez de Avenger, une espèce de pré-Zelda, un peu mal fichu aujourd'hui, mais qui est très sympa à jouer encore aujourd'hui. Wonder Winds 2, il y a tous les jeux Epix, hein, les Winter Games, les Summer Games,
bon, ça,
Impossible
alors.
Mission, Trailblazer, les Cybernoïdes, il y a vraiment des jeux très sympas qui ont vraiment tenu le temps. Et ça, c'est là où on voit les bons jeux, c'est que moi, il y a une bonne dizaine de jeux que j'ai remis avec du plaisir. Ce qui peut vraiment poser problème, on va revenir aussi sur les problèmes, c'est l'utilisation du clavier qui est factice, donc il n'a pas d'usage. Et donc, pour lancer... alors, il y a certains jeux où le clavier est vraiment mis à contribution.
Il faut vraiment brancher un vrai clavier, du coup.
Alors, tu peux brancher un vrai clavier, mais visiblement, c'est compliqué. Tous ne sont pas forcément bien reconnus. J'ai pas encore essayé.
Je vais être transparent, j'ai pas encore essayé.
Mais j'ai vraiment voulu jouer avec la machine de base.
Ouais.
Alors, on a une touche pour faire un appel de clavier virtuel, mais qui est un peu mal fichu, qui se fout sur un côté. Alors, il y a des jeux d'aventure RPG où on a beaucoup besoin du clavier. Donc, hop, on fait appel clavier, machin.
Aïe.
Et il y a des jeux où, dès le menu, il faut appuyer sur 1, 2, 3. Donc, il faut faire un appel clavier, ressortir de l'appel clavier.
Ouais.
Je vais essayer de brancher un clavier USB.
Non, c'est l'horreur, ça.
Donc, ça, et encore autre chose que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, parce que je l'ai lancé tout récemment, cet appareil que je... C'est qu'on peut, a priori, en bidouillant un petit peu des fichiers ROM, lancer d'autres jeux via le port USB. Donc, bon, on peut mais quand on a une motivation...
C'est comme pour la SNES Mini,
voilà. Et puis, a priori, il va être mis à jour. Hein. On peut le mettre à jour via USB. Donc, on va suivre aussi. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont évoluer. Moi, j'attends maintenant qu'il nous fasse un mini Amiga. Et ça sera énorme.
Le jour où il y a un mini Amiga, on fait une émission spéciale.
Ou un mini Amstrad. Ah. S'il vous plaît, faites-nous un mini Amstrad. Donc, voilà, il a plein de défauts. Mais franchement, je ne regrette pas mon achat. Moi, j'adore. Il est sous mon écran de télé. Ça fait au niveau déco. Bon, parfois, il faut négocier dans le foyer. C'est pas toujours évident. Mais j'aime bien. J'ai mon mini Commodore 64 sous la télé. Il me fait plaisir. Donc, je suis content. Je l'allume de temps en temps. Voilà.
Donc, on reporte. On parlera de Doki Doki Literature Club. Il faut en parler, semble-t-il. En tout cas, c'est assez. Quand Corentin nous en a parlé, moi j'ai eu envie d'en savoir plus en tout cas. Et on n'en reparlera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les vacances, mais on en reparlera peut-être dans deux semaines, même si dans deux semaines, figurez-vous que dans deux semaines, il y a un programme chargé parce qu'on a un certain God of War, on a un certain Nintendo Labo. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent pour dans deux semaines. En tout cas, on se retrouvera d'ici deux semaines dans Silence on Joue. Mais avant de terminer, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick?
Je suis allé au cinéma, j'ai vu Ready Player One. Alors, j'ai rarement ressenti une telle dichotomie.
Dichotomie
entre... Non mais... Entre ce que j'ai ressenti devant l'écran, c'est une sorte de plaisir béat pendant deux heures, et ne rien en garder le lendemain. C'était cette sorte de 80's exploitation à outrance.
J'aime bien ce mot, 80's exploitation.
Ouais. Mais parce qu'on est en plein dedans.
Radical 80's encore.
Non, je vous raconte, moi c'était presque gênant dans la salle de cinéma. J'avais un sourire béat pendant deux heures parce que je regardais tous les clins d'œil et machin. Je me suis réveillé le lendemain, j'avais aucun souvenir. Le film m'a pas marqué.
Ouais.
Sauf que le scénar est complètement random. Et finalement, l'exploitation des années 80, elle est là juste, c'est des skins, mais il n'y a pas vraiment d'utilisation. Il n'y a pas vraiment une exploitation de ce qu'était vraiment les années 80.
C'est du fanservice.
Alors, c'est du fanservice. Moi, j'avais déjà eu ce problème avec le film Super 8. Pareil, j'avais eu des problèmes avec ce. J'aime pas quand on convoque les années 80 comme ça de façon un peu forcée. Et là, c'est trop. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est cette différence entre le lendemain de la diffusion, enfin de la projection du film où j'en avais rien gardé. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai vu ? Une sorte de bouillabaisse de référence, mais finalement, j'en tire rien. Et puis, la façon dont un épisode de The Black Mirror m'a marqué, l'épisode, je sais pas si vous l'aviez vu sur le Star Trek, Starfleet, ça m'a fait cogiter pendant des semaines sur l'intelligence artificielle, le jeu vidéo, qu'est-ce que ce sera demain. Et là, je trouve que ce film de Spielberg, il regarde pas le futur du jeu vidéo. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de questionnement sur qu'est-ce que sera le jeu vidéo dans 20 ans.
Si, il y a un questionnement à la fin, mais au fond, la réalité, c'est quand même mieux.
On va pas spoiler, ne spoilons pas la fin du film. Mais moi, les dernières minutes, j'ai pas vu le film,
c'est ce qui ressort.
Pour être transparent, je vais lire le roman, parce que j'ai pas lu le roman, ça fait des années que vous me dites. N'arrêtez pas de me dire lis-le, et je vais lire le roman parce
en fait, c'est assez marrant ce que tu me dis sur le film que je n'ai pas vu. Mais en fait, je me rends compte que le roman, c'est un peu pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'on ressort le roman quand on vient de ces années-là, mais c'est un peu ça. Quand les références nous parlent et parce que ça a été aussi un morceau de notre jeunesse, il y a le côté Madeleine. Et au final, un manque, en tout cas en plus dans un roman, je trouve que c'est un peu plus compliqué, un manque de questionnement, qu'est-ce qu'on décrit quoi au final.
Donc ce que tu es en train de dire, Arwan, c'est que c'est une excellente adaptation.
Non mais finalement.
En fait, on en a longuement parlé chez les amis de ZQSD dans un podcast et ça m'a donné envie de lire le roman. Je me suis dit, il faut que je lise le roman pour justement. Alors, je pense qu'il valait mieux lire le roman avant de voir le film.
Moi, le roman est assemblé. Alors, j'ai pas vu le. Mais le roman est très très précis dans ses références. Par contre,
mais il y a un côté vin qui me.
Corentin.
Là, on va à l'autre bout du spectre. Hein, parce qu'on va parler de Queer Eye. Alors, est-ce que vous connaissez Queer Eye ?
J'ai vu ça arriver. Oui.
C'est une émission de télé-réalité. Alors, chez nous, c'est sorti en France à un moment donné. Il y a une version française qui a été faite, ça s'appelait Queer 5 garçons dans le vent. Mais le pitch, en gros, c'est 5 hommes, on va dire, stylés, très à la mode et tout ça, et gays, donc, puisque c'est le principe, qui vont relooker à la fois dans les vêtements, mais aussi dans l'état d'esprit. Souvent un hétéro, mais ça peut être d'autres, ça peut être des gays aussi dans cette nouvelle saison. Et donc, ça a été repris par Netflix. C'était une émission qui existait, elle était très très connue. Ouais. Aux États-Unis, ça datait de 2003 et là c'est ressorti donc par Netflix, ça a été récupéré, ils ont fait un revival là, en février avec 8 nouveaux épisodes. Et c'est bien quoi, enfin c'est sympa quoi, enfin c'est bon esprit, il n'y a pas du tout de, je sais pas si vous avez déjà regardé en France Nouveau Loup pour une nouvelle vie ou ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, ah regarde comme tu t'habilles mal, ah là là c'est pas bien, il y a un petit côté on se moque un peu de toi avant de bien te saper et tout ça, là pas du tout, c'est genre on va d'abord comprendre qui tu es, comprendre ce que tu aimes, comprendre ce qui te fait plaisir, et on va essayer de tourner autour de ça pour te rendre un petit peu plus beau, un peu plus mieux habillé,
c'est
un peu plus ouvert.
Réalité bienveillante.
C'est très bienveillant. À la fin, ils sont tous en pleurs, ils se tombent les bras les uns des autres, ils sont les meilleurs amis du monde. Notamment, alors moi, j'ai vu le premier épisode uniquement, mais j'ai très envie de regarder les suivants. Mais le premier, par exemple, c'est une espèce de redneck aux États-Unis, en Géorgie. Et le mec, il a une maladie de peau, il a un lupus, donc ça lui fait des grosses taches rouges sur le visage. Et donc, il se couvre, il se met des chapeaux, il a une énorme barbe, il cache. Et les mecs, ils arrivent et ils sont mais montre ton visage, regarde, on va trouver des choses pour te mettre en valeur. Et tout, et à la fin le mec il est plus ouvert, il tombe, il a l'œil et tout, et il va essayer de reconquérir une de ses anciennes femmes dont il est toujours amoureux. Donc je vous conseille, c'est sur Netflix, c'est 8 épisodes, regardez le premier, puis ça vous plaît pas, au moins vous serez au courant.
Mais alors moi c'est bizarre parce que je me refuse absolument à regarder de la télé-réalité sur Netflix. Je sais qu'il y a les Terrace House qui surcartonnent cette télé-réalité japonaise. Je refuse. Je ne prends pas Netflix pour apprendre, reprendre les mêmes merdes, même si c'est un peu mieux, mais que c'est quand même, c'est
ah
quand
bah
même
bravo.
Le même concept de voyeurisme que je me suis déjà tapé de la télé-réalité, et puis je continue à en voir de temps en temps. Mais voilà, moi, j'ai regardé un truc que j'avais complètement passé à côté, c'était The OA, série sur Netflix qui était sortie il y a quelques mois, années, je sais pas si ça fait un an ou quelque chose dans le genre. Série très très étrange, une nana qui avait disparu, qui était aveugle, qui revient et qui voit, et ses parents la découvrent au détour d'une vidéo sur internet, vont la récupérer. Il lui est arrivé plein de trucs entre temps, évidemment. A-t-elle été enlevée, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est super bizarre, je trouve ça extrêmement bien fait, et ils arrivent à nous faire accepter des choses. En fait, la chose à ne pas faire avec The OA, c'est prendre un épisode au hasard au milieu, et on se dit non mais c'est hors de question que je sois amené à voir cette chose là, c'est complètement ridicule. Et en fait, avec leur narration, ils arrivent à nous faire accepter des choses, et qu'on prend au premier degré, qu'on prend très 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 sérieusement. Et franchement, je trouve que ça tient bien la route. Évidemment, c'est ultra mystérieux, plein de.
J'aime bien quand t'as un high concept comme ça, genre la meuf part, viens, elle est plus avec.
Il y a un pitch.
Il y a un pitch qui te prend au trip comme ça, tu as envie de savoir quand même. Ouais. Par contre, c'est double tranchant quoi. Si la réponse n'est pas satisfaisante.
Là, ils vont tellement loin dans le côté barré que finalement, on finit. Je pense qu'il y a des gens qui doivent finir par le rejeter complètement, ouais. Bien sûr. Mais en tout cas, quand on l'accepte, je trouve que c'est assez intéressant. Il y a des très beaux passages. Je trouve qu'il y a vraiment des très beaux passages. Voilà, bref, on a encore fait plus long et on s'en fout. Donc, c'est cool.
Mais non, mais t'as 25% gratuit. Voilà.
C'est ça.
sur un objet gratuit.
Et encore, on n'a pas fait tant que ça plus long. Hein. On est à 1h15. Merci beaucoup. Merci encore.
Merci.
Au croissant de nous accueillir jusqu'à la fin de la saison. Merci Stan et Corentin de nous accueillir. Comme je vous l'ai dit, nous on se retrouve dans 2 semaines ici même pour continuer à parler des jeux vidéo et à très bientôt. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.